Bien. Quelques personnes qui sont arrivées. Bien. Nous abordons un thème très important dans la parole de Dieu. Le thème vers lequel convergent les temps dans lesquels Dieu nous a placés. Dieu est éternel. Il nous a placés dans l'espace-temps. Mais il veut nous reprendre à lui et nous replacer dans l'éternité. Et donc, tout converge en fait vers ce temps où toutes choses seront refaites et où le temps lui-même en fait n'existera plus. La fin des temps. Alors, comme d'habitude, je vais vous distribuer donc le... Voilà. Le canevas que nous allons suivre, où il y a pas mal de versets bibliques que nous ne verrons pas tous forcément, mais comme d'habitude, nous verrons essentiellement les versets qui sont en gras et italien. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde va avoir quelque chose. Sinon, il faudra que quelqu'un aille faire quelques photocopies là-haut pour ceux qui n'en auraient pas. Voilà. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous dire que ce thème de la fin des temps est parfois compris de diverses manières, selon les diverses interprétations. Mais disons que ça, on peut d'ores et déjà éliminer certaines interprétations, parce qu'elles ne correspondent pas à une façon très stricte, on va dire, d'interpréter la parole de Dieu. Voilà, donc... Beaucoup d'interprétations et de sectes sont nées à partir de ce thème-là et qu'on peut écarter d'ores et déjà parce que ça ne correspond pas du tout à la façon d'interpréter la parole. Alors, parmi les meilleurs, on va dire, interprètes, il y a néanmoins certaines nuances, certains points un peu particuliers sur lesquels on peut ne pas être d'accord, mais globalement, ceux qui interprètent correctement la parole de Dieu, on arrive quasiment à la même façon de voir les choses. Voilà. À quelques détails près. Alors, donc, en fait, j'ai donc donné, j'ai rappelé, on va dire, la manière... dans la parole de Dieu, vous voudrez qu'on l'interprète, dans 2 Pierre 1, 20-21, se trouve la manière d'interpréter la parole de Dieu dans son ensemble, et en particulier la parole prophétique. Est-ce que quelqu'un peut lire 2 Pierre 1, 20-21 ?
Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
Voilà, ce n'est pas à un homme qu'est revenue la responsabilité de pouvoir écrire quelque chose qui viendrait de sa propre intelligence, mais se pousser par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est déjà un point. Alors, dans certaines traductions, il est dit que ce n'est pas... l'Écriture ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir un verset de la Bible et l'interpréter tout seul, parce que sinon on arrive à des aberrations. et il y a des sectes, comme on en voit au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc nous allons essayer de rester sur cette méthode-là que la parole de Dieu nous recommande. Alors d'abord, un prélude pour parler de la fin des temps. Quand on parle de la fin des temps, évidemment, il y a des indications que le Seigneur lui-même nous a données. Et il a donné une série d'indications qui nous aident à discerner dans quel temps nous vivons, premièrement, et deuxièmement, à discerner les temps de la fin quand ces temps de la fin viendraient. Donc il y a deux phases. Parce qu'un jour, les apôtres ont posé deux questions à notre Seigneur. Et c'est dans Matthieu chapitre 24. Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu chapitre 24, les versets 3, 6 et 8?
Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.
Le commencement des douleurs, c'est-à-dire ce ne sera pas encore la fin. Donc, voici comment le Seigneur a groupé comment le Seigneur a donné les signes aux apôtres pour que ceux-ci puissent discerner le commencement des douleurs. Alors, il y a trois fois trois signes dont le Seigneur nous a parlé dans Matthieu 24 ou les passages parallèles. Il a d'abord annoncé qu'avant que la fin du temps ne vienne, il y aura des séductions. Matthieu 24, 5. Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 24, 5?
Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.
C'est moi qui suis le Christ. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Hein? Et ils ont séduit beaucoup de gens. C'est vrai que depuis la nuit des temps, depuis que le Seigneur est parti, il y a beaucoup de personnes qui, au cours de l'histoire, se sont prétendues être le Christ ou l'incarnation du Christ. Ils ont séduit énormément de personnes. Gardez-vous d'être séduits. Les séductions. Ensuite, il y aura des guerres et de bruits de guerre. Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 24, 6 à 7, la première partie? Oui, on l'a déjà lu, mais on peut le relire.
Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.
Voilà. Alors, il y aura des guerres et de bruits de guerre. Il y en a toujours eu, hein, vous me direz. Mais vous allez remarquer que dans toutes les séries de signes que le Seigneur donne, il y a une caractéristique particulière, c'est que ces signes-là, c'est vrai, ont toujours existé, mais plus la fin des temps approche, et plus leur intensité, ça s'accélère. Il y a une accélération de l'intensité de ces choses qui, apparemment, ont toujours existé. Évidemment, l'argument de ceux qui détraquent la parole de Dieu, c'est de dire effectivement que ces choses ont de toute façon toujours existé. Donc, vous ne nous apprenez rien de particulier. Mais, on continue. Donc, il y a les catastrophes naturelles. Georges, tu as fini le verset 7. Mais en réalité, c'était les catastrophes naturelles. Donc, il y aura des tremblements de terre, etc., etc., des catastrophes naturelles. Et au jour d'aujourd'hui, effectivement, nous voyons qu'il y a des catastrophes naturelles. Alors voilà, ça c'est des signes qui, on va dire, ont toujours existé, mais dont l'intensité va aller croissant. Ensuite, il y a trois signes que les hommes peuvent discerner comme étant quelque chose de vraiment particulier. Comme pour dire, ah, là il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas chrétien, on peut discerner un ensemble de trois signes différents. D'abord, la multiplication de faux prophètes et de faux Christ et de faux miracles. Est-ce que quelqu'un peut lire dans Matthieu 24, 11 et 24 à 26?
Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Non, c'est 24-26. Et du coup, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus.
Ah, voici... Pardon. Non, mais vas-y, continue.
Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas.
C'est vrai que il y a une multiplication de faux prophètes, de faux Christ et de faux miracles. Combien de gens, au jour d'aujourd'hui, courent derrière des miracles? Et il y a parfois des miracles qui se passent. À se demander si véritablement l'origine de ces miracles est d'origine divine ou autre. Mais il y a des miracles. Il y a des choses surnaturelles. Des gens qui font des prodiges à la vue de tous les hommes. Et ça, ça se voit de plus en plus. Voilà une première piste de faux prophètes, de faux Christ et de faux miracles. Ensuite, un signe très, très particulier, sur lequel vraiment là, on ne peut même pas discuter, c'est le retour d'Israël dans son pays après une diaspora incroyable. Israël est de retour dans son pays et cela est symbolisé par la parabole du figuier. Si tu peux lire, quelqu'un peut lire dans Matthieu 24, 32.
Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte.
Voilà. Instruisez-vous de ce que vous voyez au niveau du figuier. Alors le figuier dans la Bible est le symbole, est un des symboles de Israël. Israël, vous savez que la nation donc d'Israël d'aujourd'hui est née en un seul jour. Hein? C'est au vote de l'ONU le 14 mai 1948. Un vote est survenu au niveau de l'ONU pour qu'on puisse donner une terre, une patrie à Israël. Et les pays ont voté. Et la majorité a donné donc à Israël la possibilité de retourner dans sa terre. Et donc l'État d'Israël, en réalité, a été fondé par l'ensemble des nations. Pas une seule nation, mais l'ensemble de quasiment toutes les nations, la plupart des nations ont voté pour que Israël puisse retrouver ses terres. Après 19 siècles d'interruption quand même, depuis la destruction du temple, Israël a subi une diaspora et c'est vraiment un miracle après ce qui s'est passé, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Donc ce que Hitler a fait, l'élimination du peuple juif, la solution finale, etc. C'est vraiment un miracle qui est indéniable, que Israël a pu renaître de ses cendres en quelque sorte. Donc ça, c'est un signe indéniable que le Seigneur nous avait donné en avance en disant, regardez le figuier et regardez ce qui va se passer. Le figuier va rebourgeonner, va refaire des feuilles, etc. Donc, c'est vraiment un signe indiscutable. Voilà donc, tous les hommes peuvent regarder ces signes-là et se dire, mais il y a quand même quelque chose de particulier. On peut se poser des questions. Tout ceci avait été prédit bien en avance et ces choses-là sont en train de se produire sous nos yeux. Il y a enfin l'insouciance généralisée de l'humanité. C'est-à-dire que quand on parle de ces choses-là aux gens, mais les gens, en fait, sont complètement indifférents. Ils sont complètement indifférents aux choses de Dieu d'une manière totale. Vraiment, presque, c'est un mystère, l'iniquité, l'indifférence de l'humanité vis-à-vis des choses de Dieu. Regardez, par exemple, Matthieu 24, les versets 37 à 39.
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Les hommes mangeaient, buvaient, en fait, menaient leur vie comme d'habitude. Et lorsque Noé avait fait cette prédication, attention, il y aura un déluge, repentez-vous, que chacun revienne de ses mauvaises actions, on le prenait pour un rigolo. Qu'est-ce que ce vieux-là est en train de nous raconter? Mais au jour d'aujourd'hui, c'est pareil. Quand on dit aux gens, attention, il y aura un jugement, repentez-vous parce que Jésus-Christ va revenir, dans quel état il va vous trouver, il peut revenir d'un instant à l'autre, les gens vont dire, mais celui-là, il a perdu la foi.
C'est sûr. Hein? C'est sûr. Ouais. Ouais.
Si vous dites ça aujourd'hui, vous sortez dans la rue et vous commencez à proclamer le retour de Jésus-Christ, peut-être que vous finirez dans un asile ou au commissariat. Les gens vont vous prendre vraiment pour un fou. Donc une indifférence totale, une insouciance vraiment incroyable. Voilà les signes qui sont donnés à tous les hommes. Mais il y a des signes qui sont donnés à nous croyants. À nous chrétiens, il y a aussi des signes que nous, en fait, on est les seuls à pouvoir comprendre réellement. Les gens de la rue ne peuvent pas tellement saisir les trois signes qui vont venir. La recrudescence des persécutions intérieures et extérieures. Matthieu 24, 9, 10.
Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront. Se trahiront les uns aux autres.
Voilà. Il y aura des persécutions à la fois à l'intérieur de l'Église. Donc on se trahira, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais il y aura aussi des persécutions venant de l'extérieur. Et pour ceux qui sont abonnés à Porte Ouverte, vous n'êtes pas étonnés d'entendre ce qu'on dit ce soir, c'est-à-dire les persécutions qui vont en augmentant à travers le monde entier. Vous avez la liste des pays qui sont persécuteurs des chrétiens et la liste ne cesse de s'allonger. Il y a de plus en plus de persécutions. Nos frères et sœurs ailleurs ne peuvent pas se réunir comme nous on le fait là en ce moment. La police viendrait, mettrait les gens en prison. Bref, il y aurait même des choses qui peuvent aller même au-delà, des choses beaucoup plus graves. Les persécutions vont aller en augmentant, plus on approche des temps de la fin, et plus ces choses vont s'accélérer. On l'a dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira, Matthieu 24, 12.
Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira.
Voilà. Et Jésus avait dit à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Mais s'il n'y a pas l'amour les uns pour les autres, ça veut dire que nous ne sommes pas disciples de Christ. En fait, c'est ça que ça veut dire. Dans l'Église, quand il n'y a pas l'amour les uns pour les autres, cette Église, en fait, ne mérite même pas d'être appelée du nom d'Église, d'une assemblée qui sert le Seigneur. Parce que le signe distinctif par lequel on reconnaît les disciples de Christ n'est plus là. Et effectivement, plus nous approchons des temps de la fin, et plus les chrétiens vont se haïr les uns les autres. Voilà donc, en ce qui concerne le deuxième signe, il y en a un troisième, et celui-là, il est vraiment spectaculaire, parce qu'il y a quelques siècles en arrière, jamais on n'aurait cru à une telle propagation de l'évangile de Jésus-Christ, mais à une vitesse incroyable. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez aller dans n'importe quel pays du monde, ou quasiment, vous avez là des personnes qui ont déjà entendu parler de Jésus-Christ. Donc la propagation planétaire de l'évangile en Matthieu 24, 14.
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
Donc ce dernier signe nous montre, nous situe véritablement, bienvenue, nous situe véritablement à la porte, au commencement de... ils ne peuvent pas...
On va mettre une table.
Nous met à la porte de la fin des temps, la propagation planétaire de l'Évangile. Et qu'est-ce que vous pensez, à votre avis, par rapport à ce qu'on vient, à ce qu'on est en train de dire là, en quel temps sommes-nous, en fin de compte? Puisque c'est le signe qui nous met à la porte du commencement de la fin. Qu'est-ce qu'on peut en conclure?
Qu'on est à la porte.
On est à la porte, au commencement, véritablement.
Oui.
Nous sommes la génération qui a vu le premier, les trois premiers signes, les signes généraux, séduction, guerre, bruit de guerre, catastrophe naturelle. Nous sommes la génération qui a vu la multiplication de faux prophètes, de faux Christ et de faux miracles. Nous sommes la génération qui a vu Israël de retour dans son pays. Nous sommes la génération qui voit l'insouciance généralisée de l'humanité. Nous sommes la génération qui voit la recrudescence des persécutions intérieures et extérieures. Nous sommes la génération qui vit le refroidissement de l'amour. Et nous sommes la génération qui voit la propagation planétaire de l'évangile de Jésus-Christ. En d'autres termes, nous sommes la génération qui est vraiment, dont il est question, c'est-à-dire qui est à la porte du commencement de la fin. Jésus-Christ va revenir bientôt. Alors, quand on parle donc de la fin des temps, il y a les signes qui doivent se passer avant la fin des temps, c'est ce qu'on vient de voir, et il y a un signe qui va sonner le début véritablement des temps de la fin. Et ce signe, alors je les ai classés. Alors vous voyez là, il y a un tableau. Il est classé par étape, étape 1, étape 2, étape 3, c'est les grosses lettres, vous voyez. Et puis il y a les petites lettres entourées d'un petit rond. Ça, c'est le déroulement chronologique des principaux événements de la fin des temps. Et chaque déroulement est situé dans une étape donnée. Par exemple, les 1 et 2 sont situés dans la première étape, etc., etc. Donc voilà comment ça va se passer maintenant. C'est qu'on va suivre chronologiquement le déroulement des principaux événements des temps de la fin. Donc, comme j'ai dit, le temps de la fin, et ce qui sonne le temps de la fin, c'est un événement très particulier que si vous dites ça aujourd'hui à quelqu'un dans la rue, il va vraiment rire aux éclats. Il va nous prendre pour des fous. Il s'agit de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. De quoi s'agit-il? C'est qu'en tant que chrétiens, nous allons être enlevés par le Seigneur. Le Seigneur va revenir pour nous chercher et nous allons disparaître instantanément de cette planète Terre. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 15.
voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, et ne précéderons pas ceux qui sont morts.
Voilà donc l'événement qui va déferler la chronique mondiale, la gazette, toutes les gazettes du monde entier vont parler des places vides. Il y a partout dans le monde entier des places vides. Où sont-ils partis? Alors rassurez-vous, l'ennemi a déjà préparé toute une série de répliques, hein, dont notamment les ovnis, les extraterrestres. Ils ont été enlevés par les extraterrestres. On a déjà entendu cette version-là, des personnes qui ont déjà préparé le coup de place vide. Ils ont été enlevés par des extraterrestres. Mais nous, nous savons que nous n'avons pas été enlevés par des extraterrestres. Nous avons été enlevés par celui qui vit au ciel et qui règne éternellement, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le témoignage de place vide, tout d'un coup, des places vides. Dans un couple, le mari ou la femme n'est plus là. Il ne reste plus que l'autre personne. De deux qui seront dans un même champ, l'un ne sera plus l'autre laissé. De deux qui vont moudre la meule, l'un ne sera plus l'autre laissé. Etc, etc. Peut-être un professeur qui était en train de faire son cours, et tout d'un coup, tiens, mais le prof, il est où? Il n'a pas fini son cours. Voilà. Quelle chance. Voilà, c'est quand même incroyable. Au jour d'aujourd'hui, bien sûr, bien entendu, tout ceci reste comme des fables pour les gens, pour l'homme là. Et pourtant, frères et sœurs, c'est comme ça que ça va se passer. C'est exactement comme ça que ça va se passer. L'enlèvement de l'Église. L'Église est le point, l'Église, l'enlèvement de l'Église sonne la fin des temps de la grâce. Les temps de la grâce ont existé jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et quand l'Église sera enlevée, terminé, les temps de la grâce seront finis. Alors vous me direz, oui, mais alors donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de personnes qui vont se convertir, puisqu'on se convertit par la grâce, et c'est par la grâce que vous êtes sauvés, hein, par le moyen de la foi. Donc si le temps de la grâce est fermé, donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de conversion. Si on va voir qu'il y aura quand même des conversions, mais des conversions au prix de leur vie. Les gens qui vont se convertir à Christ, peut-être par le témoignage de places vides, mais au prix de leur vie. Il y aura quelqu'un qui va les tuer. Si vous vous déclarez pour Jésus-Christ, vous subissez la mort. Il y a des gens qui vont accepter la mort. Donc, il y aura quand même des personnes qui vont se convertir, mais ce serait vraiment in extremis au prix de leur vie. Et on va voir ça tout à l'heure. L'Église est partie au ciel. Et immédiatement après l'enlèvement des chrétiens au ciel, donc nous allons nous retrouver enfin auprès de notre Seigneur. Et là va avoir un événement, c'est le deuxième, le numéro 2, le tribunal de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, le tribunal de Christ.
Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes bons ou mauvais qu'il aura accompli par son corps.
Voilà. Donc, les chrétiens vont se retrouver devant le Seigneur et ils auront à rendre compte de ce qu'ils ont fait, des talents, qu'ils ont reçu, des œuvres. Leurs œuvres seront éprouvées pour savoir si ces œuvres-là étaient faites dans la chair, c'est-à-dire avec la volonté humaine, avec les forces humaines, ou ont été faites par l'Esprit, c'est-à-dire ont été faites par Dieu lui-même au travers de ces personnes-là. Et donc, il y aura des récompenses. Ceux qui auront fait les œuvres selon la chair recevront peu de récompenses. Ceux qui auront fait les œuvres selon l'esprit recevront de grosses récompenses. Alors la question, c'est quoi ces récompenses? Bon, c'est un mystère. Alors, certains pensent, et moi je suis de ceux-là, qui pensent que c'est certainement une affaire de proximité par rapport au Seigneur. C'est-à-dire, vraiment, on sera plus ou moins proche de Dieu, de notre Seigneur. Et être proche de Jésus-Christ, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il y a, quelle est la récompense, quelle est l'autre récompense qui satisferait mon cœur que d'être aussi proche que possible de mon Seigneur? Pour moi, il n'y a pas d'autre récompense. Vous pouvez me donner tout l'or du monde, tout ce que vous voulez, mais c'est pour moi la meilleure des récompenses, la proximité du Seigneur Jésus-Christ. Donc il y aura des récompenses, mais évidemment, il n'y aura pas de perte de salut, heureusement. Personne ne perdra son salut, même si on est sauvé au travers du feu, c'est-à-dire qu'on a tout perdu, mais il restera au moins le salut. Donc, c'est quand même quelque chose, le salut en Jésus-Christ, c'est beaucoup mieux, évidemment, c'est incomparable par rapport à ceux qui sont restés parce qu'ils ont été incrédules. Voilà. Donc, le tribunal de Christ, tout de suite, ou peu de temps après l'enlèvement de l'Église, et ceci se passe au ciel. Donc, les événements sur la terre, l'enlèvement, événement au ciel, le tribunal de Christ. Et nous restons au ciel. Et là, l'apôtre Jean voit un livre ouvert. Un livre ouvert que personne ne peut ni regarder, ni décacheter, parce qu'il est cacheté par sept sceaux. Et dans le ciel, personne n'a été trouvé capable d'ouvrir les sept sceaux, ni de regarder le petit livre qui est présent, que Jean voit. Alors c'est quoi ce petit livre et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais dans ce petit livre, on va le voir, il y a tout le jugement, tous les jugements que Dieu va déverser sur la planète Terre aux hommes qui sont incrédules. Tous les jugements de Dieu. Et personne, sauf l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est le seul qui soit capable d'ouvrir le livre. Pourquoi? Parce qu'il est le maître de l'univers. Il est le Seigneur, le roi des rois. C'est celui qui règne sur tout, et lui seul est capable d'ouvrir les sceaux et de donner les signaux pour que le jugement de Dieu puisse se déverser sur les habitants de la terre. C'est lui qui a l'autorité absolue. Personne en dehors de Jésus-Christ n'a cette autorité. Et donc, ces livres sont ouverts et contiennent 3 fois 7 jugements, c'est-à-dire à 3 reprises, 7 jugements vont se déverser sur la terre. Le premier jugement concerne le jugement des 7 sceaux. Apocalypse 6, versets 1 et 2. Est-ce que quelqu'un peut lire?
Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre.
Voilà. Quand le Seigneur vient, il prend le livre des mains de son Père, il va rompre le premier sceau et tout de suite, il y a quelqu'un qui apparaît, assis sur un cheval blanc. On lui donne un arc et il part pour vaincre, en vainqueur et pour vaincre. Et les gens se sont posé la question... Mais qui c'est ce cavalier qui monte un cheval blanc? Alors, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Certains ont cru voir qu'il s'agissait de Jésus-Christ lui-même. Mais en fait, quand on analyse bien, il ne peut pas s'agir de Jésus-Christ. Pourquoi? Mais parce que d'abord, il y a cette voix qui l'ordonne. Avec une autorité, viens. Déjà là, je tique. On donne autorité, on donne un ordre au Seigneur. Viens, et le Seigneur, il obéit. Non. Déjà là, j'ai un petit doute. Ensuite, on lui donne un arc. Tiens, il n'y a pas de flèche. Qu'est-ce que ça veut dire, un arc sans flèche? C'est quoi? si on vous donne un arc sans flèche. Bah, ça veut dire que finalement, vous ne pouvez rien en faire. Donc, vous avez la puissance de faire quelque chose, mais vous en êtes incapable. Parce qu'il manque les flèches. Déjà, il y a quelque chose qui va prendre. Ensuite, il y a la chronologie. Ça, nous sommes là dans les jugements. Le début de jugement. Or, il est clair que le Seigneur, lui, ne participe pas au début de jugement. Il viendra à la fin, lorsqu'il y aura le dernier jugement. Donc, pour toute une série de raisons et d'autres, ce personnage ne peut pas être le Christ. Alors, s'il n'est pas le Christ, de qui s'agit-il? Bon, d'abord, il monte un cheval blanc. Et le blanc, c'est le symbole, c'est vrai, de la pureté, le symbole de la paix, le symbole de l'innocence, en quelque sorte. En fait, c'est quelqu'un, sous une apparence de Christ, la paix, l'innocence, la pureté, n'est pas le Christ. Et c'est un personnage dont on va parler longuement maintenant. Ce personnage qui vient, qui va sur la terre en tant que jugement de Dieu. Ce personnage, il a un arc et pour l'instant, il n'a pas de flèche. C'est-à-dire qu'il n'a pas tellement la capacité de nuisance. Donc, il va user de beaucoup d'artifices pour régner. Parce que ce personnage est appelé à régner sur la planète Terre tout entière. Et on voit donc, donc le petit numéro 4 qui vous est donné, le début de la 70e semaine de Daniel, la tribulation, que ce personnage vient introduire une ère qui s'appelle la tribulation. Une ère qui va durer 7 ans. Et c'est cet homme-là qui en est le principal acteur. Le principal acteur, c'est donc un faux Christ que la Bible, en fait, appelle, alors ça dépend des versions, l'antichrist ou l'antéchrist. L'antichrist, c'est-à-dire contre le Christ, et l'antéchrist, c'est-à-dire immédiatement avant la venue de Christ. En fait, il est les deux à la fois. C'est un antichrist qui précède le vrai Christ, immédiatement avant le vrai Christ. C'est donc un anti-antéchrist. Et que la Bible appelle l'homme de péché. Regardez Apocalypse chapitre 13, les versets 1 à 4. Apocalypse 13, versets 1 à 4. Est-ce que quelqu'un peut lire?
Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre celle contre elle ?»
Alors, ici, vous avez donc ce personnage qui est tellement séduisant, qui est tellement beau parleur, en quelque sorte. Il a réussi ce qu'aucun homme avant lui n'avait réussi, c'est-à-dire séduire la terre entière, la planète terre entière, l'antichrist. Mais l'antichrist, l'antéchrist n'est pas seul. Il est, comme on vient de le dire, Il y a un deuxième personnage que quelqu'un peut-être a décelé, c'est le dragon. Et le dragon, ici, dans le livre de l'Apocalypse, c'est le diable. Et regardez les versets 11 et jusqu'à 18, donc d'Apocalypse 13. Est-ce que quelqu'un peut lire ?
Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, 666. Et son nombre est 666.
Voilà, le nombre qui a fait énormément d'hommes. Hein. Alors, d'abord, il y a une deuxième bête, une première bête, celle qui a cette corne, c'est donc l'Antichrist. Mais il y a derrière lui une deuxième bête qui est tout aussi nuisible, en quelque sorte son premier ministre, parce qu'il ne le quitte pas d'un seul pouce et il oblige les habitants de la terre, tous les habitants de la terre, à adorer l'Antichrist. C'est lui en fait un chef de propagande comme on n'en a jamais connu dans le passé. Le propagandiste le plus, peut-être, celui dont rêvent la plupart des hommes d'État, il fait la propagande de la première bête. Et il oblige tous les habitants de la terre à adorer la première bête. Il les oblige à recevoir sur leur main droite une marque, ou sur le front, une marque et la marque. L'apôtre Jean nous dit ici que c'est un chiffre que celui qui a de l'intelligence peut calculer. C'est le chiffre 666. Alors, 666, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup, beaucoup... moi, j'ai lu quelques livres là-dessus, mais franchement, il y a des interprétations les plus fantaisistes hein, qui existent. Alors on fait des corrélations, on y trouve, parfois les gens ont trouvé un certain Hitler, Napoléon, enfin bref, c'est toutes les interprétations les plus rocambolesques. Mais en fait, il y a quand même quelque chose de très très particulier, c'est le chiffre 6. Est-ce que vous savez, dans la Bible, à quoi correspond le chiffre 6 ?
Alors.
Ouais, alors. Oui. Et c'est dit dans le verset, c'est un chiffre d'homme. Et son chiffre est 666. Donc il y a 6, 6 et 6. C'est-à-dire homme, homme, homme. En d'autres termes, l'Antichrist sera un véritable homme qui sera incapable de parvenir au chiffre supérieur, qui est le chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre réservé à Dieu. L'Antichrist voudra se faire Dieu, mais il n'y parviendra pas. Il restera 6. Mais il y a 3-6. C'est une trilogie. En fait... c'est une imitation du véritable Dieu. qui est un Dieu trinitaire. Et là, nous avons une trinité formée de quoi? L'antichrist, le faux prophète, donc son premier ministre,
et le dragon.
Mais tous les trois veulent prendre la place de Dieu. Mais tous les trois sont en dessous de Dieu. Ce sont des six. Donc c'est une trinité diabolique composée de l'antichrist, du faux prophète et du dragon. Et derrière tout ça, bien sûr, celui qui mène la danse, c'est véritablement le dragon. Donc, ici commence une œuvre, on va dire, pacifique pour l'instant de cet homme-là, de l'antichrist. Et dans la Bible, cette phraséologie, tous les versets que nous avons lus, nous rappellent presque mot pour mot à un livre de l'Ancien Testament, qui est le livre de Daniel. Daniel a parlé en long et en large et en travers de l'Antichrist en le décrivant quasiment exactement comme l'apôtre Jean l'a vu dans l'Apocalypse. Parce que quand vous allez à Daniel chapitre 9 par exemple, lisez le verset 27 de Daniel 9.
Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui avait été résolu fondent sur le dévastateur.
Alors, Daniel, lui, c'est un homme de Dieu, mais vraiment un homme de Dieu, un homme de prière et un homme de l'écriture. Il a sondé les écritures. Et c'est d'ailleurs lui qui a vu que Jérémie, le prophète Jérémie, avait prédit que la déportation du peuple d'Israël à Babylone durerait, la captivité d'Israël durerait 70 ans. Exactement 70 ans. Et jour pour jour, 70 ans après la déportation du peuple d'Israël, Israël sort de la captivité, il retourne dans son pays. Et ça, Daniel l'avait vu auparavant. Il avait vu que Dieu avait fixé 70 ans sur son peuple en captivité. Et là, Daniel, donc, voyant que les 70 ans vont bientôt être là, puisqu'il est, il a été déporté, il était très très jeune, hein. Et donc, il se met à prier le Seigneur. « Seigneur, fais quelque chose. Ta parole est la vérité. Tu as dit dans ta parole, etc. etc. » Et la prière de Daniel a été entendue en haut lieu, au ciel. Et un ange est venu pour ouvrir l'intelligence de Daniel et lui montrer non seulement que son peuple va être libéré, effectivement 70 ans de captivité, mais il lui montre tout le panorama prophétique de ce qui va arriver par la suite. Sauf un détail. En fait, Dieu va lui montrer que depuis que le décret d'un certain roi à Babylone va prendre la décision que le peuple d'Israël peut retourner dans son pays pour rebâtir son pays, pour rebâtir donc Jérusalem, à partir de ce moment-là, tu vas compter une série de 69 semaines. Alors, c'est de semaines d'années. C'est-à-dire, c'est 69, une semaine, donc 7 jours, mais en fait, les jours, ce sont des années. Donc, 69 fois 7 années. Et si vous et donc à partir de l'édit d'Artaxerces qui ordonne aux Juifs qu'ils peuvent retourner dans leur pays, à partir de là, si vous comptez exactement 69 semaines d'années, vous arrivez au Messie. c'est-à-dire à Jésus-Christ. Et exactement, les gens ont fait des calculs. Bon, là, aujourd'hui, ce n'est pas le thème, mais peut-être qu'un jour, on fera ces calculs mathématiques. Hein, c'est mathématique. Ce n'est même pas de, comment dire, de peut-être. Non, c'est vraiment exactement 69 semaines d'années se sont écoulées depuis l'édit d'Artaxerxès jusqu'à Jésus-Christ. Et tout s'est passé exactement comme Daniel l'avait prévu. Et Daniel est en train de parler donc de la 70e semaine, c'est-à-dire à partir du moment où le Messie est retranché, donc la mort de Jésus-Christ sur la croix, il y a donc il y a 69 semaines qui se sont passées, et là il est en train de parler de la 70e semaine. Alors il y a un problème, parce que depuis que Jésus-Christ est mort, les temps de la fin n'ont pas encore commencé. Tout ce qu'on est en train de voir n'a pas encore commencé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose qui ne va pas là. Est-ce que Daniel se serait trompé? Ben non, il ne s'est pas trompé. Parce que Daniel n'a pas vu un détail important. Lequel? Les temps de la grâce. L'église de Jésus-Christ. Parce que à tous les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas du tout vu la période que nous vivons actuellement, c'est-à-dire la période de la grâce. Où toutes les nations, tous les peuples peuvent être sauvés par la foi en Jésus-Christ, par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Les prophètes de l'Ancien Testament, aucun Dieu n'a révélé cette parenthèse en quelque sorte à aucun prophète de l'Ancien Testament. C'est ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit « À moi qui suis le moindre des apôtres a été donnée la charge d'annoncer le mystère caché de toute éternité. » C'est-à-dire, juifs et non-juifs peuvent accéder au salut en Jésus-Christ. Si vous avez dit ça, ces choses-là, à un juif de l'Ancien Testament, vous aurez dit « Vous blasphémez. » Les païens n'ont pas accès au salut en Dieu. Parce que le peuple élu, c'est le peuple d'Israël. En fait, ils ont mal compris la mission d'Israël. Et aucun prophète, et même les anges eux-mêmes, désirent plonger les regards dans ces choses, mais ils ne peuvent pas. Ces choses leur ont été cachées. La grâce de Dieu en Jésus-Christ. Nous vivons des temps de grâce, frères. Je ne sais pas si on réalise le privilège qui est le nôtre de vivre le temps de la grâce. Et ce temps de la grâce n'a pas été vu. C'est pour ça que Daniel passe de la mort du Messie, donc la 69e semaine, à la 70e semaine, directement, sans décrire la période de l'Église que nous vivons actuellement. Et donc, en fin de compte, cette 70e semaine de Daniel, qui commence donc à l'intronisation en quelque sorte de l'Antichrist, donc cette période de la tribulation qui va durer 7 ans, de cet homme-là qui est sur un cheval blanc, qui est un faux Christ, qui est un faux pur en quelque sorte, un faux qui prône une fausse paix, parce que le blanc c'est la paix. Quand les hommes diront paix, paix, sécurité, enfin, il y a un homme qui nous apporte la paix, cet homme-là qui est venu résoudre tous les grands problèmes de l'humanité, enfin sont résolus. Cet homme-là est vraiment le maître du monde et tout le monde va l'acclamer. Et tout le monde va accepter volontairement, même de manière vraiment du cœur, du fond du cœur, de recevoir la marque sur le front ou sur la main droite. 666. Et donc, voilà comment l'humanité sera séduite. Mais, il y a quelque chose qui se passe au ciel. En Apocalypse 12, le verset 7 à 12, est-ce que quelqu'un peut lire?
Il y eut une guerre dans le ciel. 12. 7 à 12.
Ouais, 7.
Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. »
Voilà. Très important ce passage. Parce que le diable est bouté hors du ciel. Il a combattu contre les anges de Dieu, mais il n'a pas été le plus fort. Et il a été précipité. Mais il a été précipité sur la terre. Et donc, quand il voit qu'il se retrouve sur la terre, il a compris. Il a compris que son heure est terminée. Il ne lui reste que très peu de temps. En réalité, il lui reste 3 ans et demi. Parce que le début de la tribulation, nous sommes là à la moitié du règne de l'Antichrist. Et donc, quand il est précipité sur la terre, il va évidemment introniser son meilleur agent, c'est-à-dire l'Antichrist, et il va lui donner les flèches qui lui manquaient en quelque sorte. L'Antichrist devient véritablement l'Antichrist, c'est-à-dire avec toute la méchanceté, toute la sauvagerie, c'est un monstre sanguinaire. Devant cet homme-là, Hitler n'est qu'un petit enfant. Un petit enfant de rien du tout. Et donc le diable, animé d'une grande colère, n'a qu'une seule ambition, une seule, empêcher le retour de Jésus-Christ sur la terre. Empêcher que Jésus-Christ vienne régner sur la terre. Et tous ses représentants, tous ceux qui de près ou de loin se réclament de Jésus-Christ, il va leur faire la guerre. À commencer par Israël. Israël qui a donné naissance au Messie, le Messie qui est à l'origine du christianisme. Et donc, tous les coups du diable vont porter sur Israël et sur les chrétiens. Et donc, va commencer ce personnage qui était un homme de paix, va changer son costume. Il va devenir un dictateur comme jamais aucun dictateur n'a été à ce point-là, d'une cruauté qu'aucun dictateur n'a jamais connue. Et donc, la prochaine fois, on commencera là. Bon, c'est un tout, hein, c'est en 2 études, à la fin du temps. Donc, la prochaine fois, on verra comment l'humanité toute entière va souffrir, mais souffrir d'une manière comme jamais, sous les coups de cet homme. Ils vont se rendre compte, tout d'un coup, que celui qu'ils acclamaient, en réalité, c'est un bourreau. Mais ça sera trop tard. Trop tard, certains comprendront, certains iront jusqu'au bout, certains le paieront de leur vie, le salut en Jésus-Christ. Et le diable, le dragon, ainsi que l'Antichrist ne vont pas leur faire des cadeaux. Donc, on va s'arrêter là, et la prochaine fois, donc, il y aura la suite de ce qu'on n'a pas vu, plus autre chose qui suit le règne de Jésus-Christ sur la terre, le retour de Jésus-Christ sur la terre, c'est-à-dire le début, le millénium, ainsi que la fin des temps, c'est-à-dire l'éternité future. Bon. Je ne sais pas si quelqu'un a une remarque. Quelque chose comme ça, avant qu'on puisse prier avant de se séparer. Si quelqu'un voudrait. Alors moi, la seule chose que je voudrais vraiment. C'est vraiment incroyable. Moi, je pleure de voir comment le cœur humain est d'une dureté incroyable. Tu peux lui mettre toutes les preuves devant les yeux qu'il est encore incrédule. Parfois, je me dis, mais si j'avais une petite manivelle, à aller tourner dans la tête de quelqu'un pour lui dire, mais attends, rembobine, ça, enfin... Mais malheureusement, je n'ai pas la petite manivelle, et heureusement d'ailleurs. Voilà, donc vraiment un cri de mon cœur qui est lancé à tous ceux qui entendent ces choses, vraiment. C'est tellement évident. Moi, je me suis converti en grande partie grâce à la prophétie. Parce que j'étais un homme, quand même, vraiment, je mets les choses rigoureuses. Et là, je me suis régalé sur ces choses de l'Apocalypse, etc., etc. Donc, voilà. Alors, on va prier pour terminer.
Juste, je voulais dire que je crois que ce qui est important pour nous en tant que chrétiens, c'est que bon, on connaît par rapport à ce que nous dit la parole de Dieu, mais je crois qu'il ne faut pas, la force elle est en Christ, et c'est là qu'on doit s'appuyer sur le Seigneur, mais il ne faut pas minimiser les séductions que le diable nous met à nous, parce que bon, il y a plusieurs séductions, et on peut se dire, bon, je vais faire attention, mais attention, je crois qu'il faut être vigilant et être conduit par la parole de Dieu, parce que il a plus d'expérience que nous, le diable, et il est plus fort que nous, mais nous avons plus fort que lui. Et c'est vraiment de se concentrer sur la parole de Dieu, parce que c'est elle qui va nous, par l'Esprit de Dieu, va nous conduire, nous diriger, faire attention aux attaques du diable. Ne croyons pas que nous sommes arrivés, mais restons vigilants, parce qu'il séduit, il sait comment séduire.
Absolument. Si quelqu'un veut prier juste pour conclure.
Oui, Seigneur du Tout-Puissant, tu nous rappelles ou tu nous apprends aussi, Seigneur, ce soir encore ces choses qui nous font nous souvenir qu'un jour, Seigneur, tout ceci va prendre fin. Un jour, Seigneur, tout ce qui est tristesse, angoisse, maladie, toutes ces choses prendront fin un jour, Seigneur, et nous serons un jour dans le ciel, Seigneur, avec toi. Mais que malheur, tristesse, angoisse, toutes ces choses attendent ce monde ici-bas. Ceux qui n'auront pas cru, ceux qui n'auront pas accepté, ceux qui auront suivi ce monde, Seigneur, de corruption. Tout ceci, tu nous le dis, Seigneur, dans ta parole, et nous sommes vigilants, nous sommes attentifs, et nous voulons être pleinement instruits de toutes ces choses, Seigneur, pour nous-mêmes nous fortifier, et puis avertir aussi les autres. Merci encore de nous ouvrir encore les yeux, que nous puissions persévérer dans l'étude, Seigneur, de ta parole et comprendre encore plus de choses, Seigneur, afin de nous réjouir, Seigneur, de l'accomplissement de ta parole, Père. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen.